France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Comment cultiver des liens solides avec les autres alors qu'il devient de plus en plus difficile d'en créer de nouveaux? C'est notre question ce matin avec la complicité du groupe de presse Ebra et avec la fabrique Spinoza. Les liens sociaux, absolument vitaux pour le bien-être individuel et sociétal, le lien, premier vecteur et facteur de bonheur, la solitude, l'isolement, le repli sur soi qui tue à petit feu, l'absence de liens qui impacte notre santé, notre travail, mais également nos territoires, notre démocratie, notre rapport à la sécurité ou à l'écologie. Comment créer davantage de liens dans nos sociétés où la peur de l'autre prend le dessus et où la technologie crée des interférences dans nos relations humaines? Et vous, comment faites-vous pour créer de nouveaux liens dans votre quartier, dans votre village, dans votre cité? Je vous attends au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Il y a une vérité émotionnelle. Cette vérité émotionnelle, chaque être humain peut en faire l'expérience. C'est-à-dire qu'en gros, quand je suis en conflit avec quelqu'un, quand j'en veux à quelqu'un, quand j'ai peur de quelqu'un, eh bien, mon corps souffre. Autrement dit, chaque fois que j'héberge une émotion relationnelle, une émotion sociale négative, ça fait souffrir mon corps. Et chaque fois que je suis dans la bienveillance, l'entraide, l'altruisme, la gratitude, ça fait du bien à mon corps. Donc c'est une sorte de signal comme quoi nous sommes faits pour l'entraide, nous sommes faits pour la bienveillance, nous sommes faits pour la solidarité.
Nous sommes faits pour la solidarité et pour le lien social. Christophe André, le 20 janvier 2020, dans Grand Main vous fasse. Bonjour Rebecca Shankland.
Bonjour.
Vous êtes professeur et chercheuse à l'Université Lumière Lyon 2. Vous êtes membre de l'Institut Universitaire de France et vous aviez publié avec Christophe André ces liens qui nous font vivre, disponibles en poche chez Odile Jacob. Et vous êtes en duplex des studios d'ici Isère. Ici, le tout nouveau nom du réseau France Bleu. Bonjour Alexandre Jost.
Bonjour Ali.
Vous êtes délégué général et fondateur de la fabrique Spinoza, une association qui vise à développer le bonheur citoyens, et vous publiez une énorme étude, La société du lien, les liens sociaux pour répondre aux grands enjeux de société. Bonjour Sébastien Georges.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédacteur en chef de l'Est Républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin. Vous êtes le coordinateur du groupe de presse Ebra, qui compte également le groupe Ebra.
Le Progrès, le Journal de Saône-et-Loire, le Bien Public, le Dauphiné Libéré, les Dernières Nouvelles d'Alsace, l'Alsace. Et les trois titres dont j'occupe la fonction de rédacteur en chef.
Et nous sommes très heureux de collaborer ce matin avec la presse quotidienne régionale essentielle pour créer du lien partout en France. Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour Ali.
Co-directeur de la Fondation Jean Jaurès, chroniqueur un jeudi sur deux dans cette émission. Mais ce n'est pas vous cette semaine. Cette semaine, c'est Jean-Laurent Casselli. Bonjour.
Bonjour Ali.
Fondateur de Maison Casselli, un cabinet qui décrypte les tendances de notre société. Et vous avez publié avec Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, disponibles chez Point Seuil. Alors, Alexandre Jost, la société des liens, c'est le grand défi des années qui viennent dans cette France qui ressemble pour certains, comme Jérôme Fourquet, à un archipel composé d'une myriade d'îles repliées sur leur identité.
Bah, on est là pour se faire du bien, mais on a quand même besoin de dire ça pour commencer, et c'est sûr. Hein. Quand on regarde les chiffres du Labo de la Fraternité, on voit qu'en 2019, il y a 62% des Français qui se disaient « on n'est jamais trop prudent vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaît pas ». Et 5 années plus tard, ce chiffre, il est passé à 79%.
79%.
Et le 4 février, avec le nouveau chiffre du Barreau de la Fraternité, à mon avis, ça va encore baisser. Donc c'est un chiffre de défiance qui fait peur. Alors on pourrait dire, oui, mais dans l'absolu, est-ce que ce chiffre est vraiment embêtant? Ce qui est embêtant, c'est que, comparé à d'autres pays, ce niveau de défiance, il est plus important. Et surtout, qu'il se dégrade. Un autre chiffre qui m'a marqué, c'est qu'on a quand même 31%. Des Français qui nous disent « je ne souhaite pas échanger, parler à quelqu'un qui a un avis contradictoire au mien sur un sujet fondamental ». Et donc on a cette vision de la société où on est juxtaposé, on est côte à côte, mais on n'a pas envie de se parler. Et je lisais tout récemment, alors ça m'a stupéfait, c'est vrai aux États-Unis aussi, en 20 ans, diminution d'un facteur 2 de la confiance, mais surtout, eh bien, les gens passent la moitié de leur temps à manger seuls. Donc tout ça tricote et tisse la vision d'une France dans laquelle on ne fait plus confiance à l'autre, on n'a plus envie de s'y adresser, de s'adresser à lui, en particulier lorsqu'il s'agit de quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Jérémy Pelletier.
Ouais, moi, ce qui me frappe, en sus de effectivement de toutes les données qui viennent d'être citées, c'est que les Français, en effet, dans beaucoup d'enquêtes, sont touchés par une forme de société de l'absence. En gros, quand on leur demande de décrire un peu l'époque, de décrire la société dans laquelle ils vivent, de décrire la France, on s'aperçoit en fait que l'absence est permanente, que tout le monde est touché par la présence, en effet, de l'absence. Absence de certains services publics, absence de relations avec les agents des services publics, absence de médecins avec les déserts médicaux, absence de profs, parfois, dans l'école publique qui ne sont pas remplacés, absence de certains salariés dus à des arrêts maladie longue durée. Et en fait, c'est assez fascinant de voir que c'est un des éléments, en effet, central aujourd'hui, quand les gens doivent raconter l'époque, doivent raconter la France, ils sont touchés, en effet, par cette absence, ils sont touchés par une forme, en fait, de déshumanisation, et je pense que c'est ça aussi qui est au cœur de notre sujet. Et on a mené, il n'y a pas très longtemps, une petite étude avec BVA et le groupe La Poste, et ce qui était frappant, c'est de voir qu'en effet, sur les 10 dernières années, une grande majorité de Français disent les liens se sont raréfiés, et dans tout secteur, les liens se sont raréfiés entre les agents et les usagers du service public, entre les membres d'une même famille aussi, chose qui est un peu surprenante dans l'époque du cocon où on pensait que la famille était un peu protégée de tout ça. Donc déshumanisation et raréfaction en effet des liens dans une société de l'absence, ça me frappe.
Alexandre Jost.
On peut essayer d'interpréter ça en se disant que ça vient du fait qu'on a de moins en moins de lieux où on se croise. C'est la boulangerie se scinde en deux types de boulangeries, la boulangerie avec la farine à l'épeautre et puis la boulangerie autre. Vous allez faire du sport si vous êtes urbain dans des salles fitness où vous payez, vous allez moins dans les associations, sans parler de l'école, sans parler du service militaire, le travail hybride. Et donc finalement, les Français ne se croisent plus. C'est la Française des Jeux qui disait « Nous sommes inquiets de voir que dans les PMU, eh bien, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de mixité. Quels sont les endroits dans lesquels on peut à nouveau se frictionner et échanger avec l'autre ?»
Et il y a un autre élément pour rebondir en effet sur ce que disait Alexandre s'agissant de la défiance. Ça, on le note beaucoup, notamment depuis la crise sanitaire, c'est l'augmentation en effet et l'apparition d'une forme d'agoraphobie, c'est-à-dire l'autre devient compliqué, cela suppose un effort plus important qu'avant. On l'a notamment beaucoup vu chez la jeune génération, chez les moins de 35 ans, qui depuis la crise sanitaire, en gros, nous disaient « c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'aller vers l'autre parce que ça me demande un effort, ça me demande une forme de compromis, ça me demande aussi peut-être de penser un peu contre soi-même. » Donc en effet, ce sujet aussi de l'agoraphobie, l'autre qui devient un élément conflictuel est aussi un nouvel élément accéléré par la crise sanitaire.
Alexandre Jost, si on observe les différentes crises qui ont secoué notre pays ces dernières années, le Covid, les gilets jaunes, les émeutes urbaines, les colères agricoles, la réforme des retraites, les fractures territoriales, on retrouve un même point commun, c'est-à-dire un lien social abîmé, voire déchiré.
Oui, c'est vrai, et le lien social est à la fois la conséquence et la cause. Moi, il y a une phrase qui m'a frappé d'un rapport du CESE en 2017 qui dit « La précarité relationnelle serait à l'origine de ce sentiment d'être exclu, de ne pas compter dans le cours des choses. » Et donc, ce manque de lien, il est générateur de crise, il l'encourage, sans malgré tout pessimisme, parce qu'on est à grand bien ou fasse. Et là, c'est intéressant de voir, c'est Hopscotch qui nous rappelle que entre les trois communes autour d'Autun, Autun et les deux autres, eh bien, selon la politique culturelle et inclusive des communes, eh bien, il y a eu plus ou moins de manifestations des Gilets jaunes, mais surtout moins de violence dans la commune d'Autun qui essaie de maintenir le lien social. Donc démocratie, mais démocratie moins violente.
Sébastien Georges, depuis votre beau poste d'observation à l'Est républicain, au Républicain Lorrain, à Vosges Matin, vous avez vu ce lien social se déchirer, s'abîmer au fil des années, depuis au moins la crise des Gilets jaunes ?
Oui, on l'a forcément.
Et même avant, peut-être.
On l'a forcément vu, et de toute façon, je pense que c'est aussi lié au développement de la technologie. C'est-à-dire que l'isolement, la solitude, contribue forcément et est alimenté par ça. C'est-à-dire qu'on a tout au bout de main, et on a les réseaux asociaux, ou comme dirait mon ami François-Xavier Lefranc de Ouest-France, qui reprend toujours cette réflexion-là, mais au sein des bras, on a constaté, nous, régulièrement qu'il faut qu'on ait des facteurs de lien avec nos porteurs, avec nos correspondants locaux, avec la capacité de nos journalistes à se projeter sur le terrain, aller à la rencontre, mais on a aussi vu des gens qui, finalement, ont du mal à parler à l'autre, où ils se parlent entre eux quand ils ont les mêmes idées. Oui. On parlait des manifestations, des gilets jaunes, de tout ce qui est... En fait, ils ont les mêmes idées. Ceux qui ont les mêmes idées manifestent ensemble, échangent, créent du lien, mais mettre quelqu'un en face qui ne partage pas ou qui ne relaie pas leur avis, parce qu'on a aussi, nous, subi ça par des journalistes qui ont été agressés, des choses comme ça, et ben, on voit qu'il y a une rupture. Et là, je reviens à ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'on a du mal à parler à l'autre et à accepter l'opinion de l'autre, sinon par des plus ou des moins, ou des pouces levés et des pouces baissés sur les réseaux sociaux, et là où on se déchaîne, là. Mmh. On n'hésite pas là, à partager, mais c'est pas ça la vraie vie.
Rebecca Chanclambre.
Oui, alors tout à fait. Il y a d'une part cette recherche de ce qu'on appelle l'homophilie. On va rechercher plutôt des personnes qui pensent comme nous, qui ont les mêmes valeurs, le même type de passion. Et là, ça facilite l'entrée en contact. Il y a aussi des espaces aujourd'hui qui permettent et qui cherchent à permettre de recréer ce lien, comme par exemple les initiatives comme les petites cantines, qui sont des espaces où finalement, comme on fait confiance au dispositif, on a cette possibilité plus facile de rentrer en contact en faisant la cuisine avec les personnes, en partageant un repas avec des personnes de tout type qui viennent du quartier, certaines qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas. Donc il y a de plus en plus aussi d'initiatives pour pouvoir faciliter cette création de liens de confiance. Et en soi, les humains ont cette facilité à pouvoir créer des liens avec des rituels, mais des rituels qui ont été aussi mis à mal par la crise Covid, puisqu'on ne pouvait plus, par exemple, faire la bise, serrer la main, etc. Or, le contact physique est essentiel pour pouvoir faciliter ce lien de confiance. Ça va faire sécréter de l'ocytocine, qui est une hormone qui permet justement de créer le lien de confiance. Donc, voilà, ces rituels, petit à petit, on peut commencer à les retrouver, mais on voit effectivement chez les jeunes une distance par rapport à ça, chez les personnes plus âgées, beaucoup de peur qui viennent entraver finalement la possibilité de créer ces liens plus facilement, avec effectivement une accentuation de cette problématique liée aux réseaux sociaux qui font que les rapports virtuels sont facilités. Mais ensuite, le passage dans la vraie vie entraîne un certain nombre de peurs, de représentations, peurs du jugement, qui sont aussi accentuées pour les personnes, par exemple, qui ont des phobies sociales, qui vont avoir encore plus peur d'entrer vraiment en contact réel avec des personnes.
Jean-Laurent Casselli, quel est le menu de votre chronique « Les Français mode d'emploi » vers 11h20?
Alors moi aussi, je vais vous parler de liens entre la France des villes et celle des territoires, parce que je vais parler de ces films de territoires avec d'énormes guillemets qui se passent dans le Jura, en Lorraine, comme en fanfare, comme Vingt-un-Dieu. Et je vous en parlerai tout à l'heure.
Allô, détresse amitié. Oui, joyeux Noël, monsieur.
France Inter.
Mais monsieur, vous ne me dérangez pas, je suis là pour vous écouter.
Grand bien vous fasse.
Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir.
Eh bien non, monsieur. Justement, vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute.
Ah. Ali Rebéi.
Pourquoi est-il devenu si difficile de créer de nouveaux liens? Comment créer de nouveaux, justement, c'est notre thème ce matin, avec le groupe de presse quotidienne régionale Ebra et avec la fabrique Spinoza. Alexandre Jost, vous en êtes le délégué général et fondateur. Et on peut retrouver, mais vraiment, le très très bon rapport, gratuitement. Il est énorme. Hein,
comme un kilo.
Comme disait Jérémy Pelletier, il pèse...
deux ânes morts.
Voilà. Absolument. Mais c'est absolument passionnant, vraiment. Et on peut le lire gratuitement sur...
fabriquespinoza.org.
Et c'est gratuit, hein, ça s'appelle la Société des Liens. Alors pourquoi, pour vous, il est devenu si difficile de créer du lien? Quels sont les principaux freins? Jérémy Pelletier, je rappelle que vous êtes co-directeur de la Fondation Jean Jaurès.
Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons, on en a évoqué déjà un certain nombre, mais le point, à mon avis, majeur et important, c'est déjà qu'on est dans une société plus vulnérable qu'elle ne l'avait pas été par le passé. Et on l'a dit à l'instant, difficulté de confronter son avis avec un avis différent, difficulté de croiser des gens qui sont issus d'un autre milieu social, d'une autre génération, d'un autre territoire. Ça, à mon avis, cette difficulté-là, cette incapacité-là, est liée en effet déjà à une génération, notamment à la jeune génération, mais pas que, qui est beaucoup plus vulnérable et donc qui se sent beaucoup plus offensée, beaucoup plus abîmée, beaucoup plus chahutée, en effet, lorsqu'elle va être en échange avec quelqu'un qui pense avec un autre avis que le sien. Ça, je pense que c'est le premier élément. Le deuxième élément, et vous l'avez dit, la peur du jugement. Peur du jugement très liée à la culture numérique, très liée à la culture des réseaux sociaux, à la culture un petit peu de l'intimidation qu'on voit beaucoup en fait sur ce type de réseau. Donc je pense que ça joue aussi ensuite dans les rapports sociaux avec les individus qui n'ont pas envie de se faire chahuter comme ils se font chahuter sur les réseaux. Et je pense qu'il y a un troisième élément qui est lié à la fatigue. À la fatigue de la société dont on a beaucoup parlé dans cette émission, notamment à l'issue de la crise sanitaire. Et nous, on le voyait bien, depuis la crise, beaucoup de gens, de plus en plus de Français nous disaient « Moi, le vendredi soir, c'est plus difficile désormais pour moi de sortir, d'aller faire la fête avec des gens que je ne connais pas. Je préfère, entre guillemets, faire la fête à la maison avec des gens que je connais, que je maîtrise, parce que c'est plus rassurant d'une part, mais c'est moins fatigant. » Et donc, je pense qu'il y a ces trois objets. Mais en effet, l'élément fatigue d'aller vers l'autre, lié à une fatigue de la société, je pense que c'est un élément important.
Alexandre Jost de la Fabrique Spinoza.
Oui, tout à fait. Et puis, en plus de ça, il y a probablement des cercles vicieux qui s'enclenchent dans la mesure où on perd le goût de l'autre parce qu'on a perdu l'expérience de rencontrer l'autre. Et on a un biais cognitif qui est un peu malheureux qui s'appelle la prédiction affective erronée. Alors, c'est très savant.
Expliquez-nous.
Et ben, ça veut tout simplement dire, en gros, j'ai l'impression que si je vais te parler dans un lieu inconnu et que je ne te connais pas, eh bien, ça va être une expérience difficile. On a demandé à des gens dans le métro, dans le train à Philadelphie de s'y préférer. Ou bien voyager seul sans s'adresser à leurs voisins, ou bien le faire. Et ils disent « Ah, surtout seul !» Et à la fin, ceux qui ont parlé à leurs voisins ont passé un meilleur trajet. Parce qu'on a l'impression que, eh bien, on est à risque de parler à l'autre. Et pourtant, on en retient une plus grande satisfaction. Et ça, ça se conjugue, ce mauvais biais prédictif.
Redonnez le nom de ce biais.
Donc, la prédiction affective erronée. Je pense que l'autre ne va pas m'apporter ni information, ni émotion. Et ça se conjugue avec quelque chose qui est français, sans se flageller. C'est qu'on est le pays, l'un des pays du monde, où sourire vous semble donner l'impression qu'on est idiot, qu'on est bête.
C'est pas faux.
Et pourtant, c'est quand même utile pour créer un lien avec l'autre.
Sébastien Georges, coordinateur du groupe de presse Ebra.
Oui, alors moi je pense qu'on voit aussi un élément important, notamment dans nos territoires, et on oublie parfois que la vie ne se limite pas aux zones urbaines, il y a aussi tous les territoires, il y a une espèce de désertification qui ne facilite plus l'échange, puisque aujourd'hui, la fermeture de services publics, la fermeture d'agences bancaires, la fermeture de boulangeries, de cafés, etc., contribue aussi à ce que les gens, finalement, n'aient plus moyen, hein, n'est plus envie de sortir, se retrouve dans la solitude. Et je voulais passer aussi un salut aussi à l'association Astrée qui fait la journée de solitude le 23 janvier et qui va nous présenter encore son baromètre annuel là-dessus. On est partenaire, il travaille aussi avec la Fabrique Spinoza sur le sujet. Et donc, il montre aussi cet aspect-là, que dans les territoires à droite et à gauche, il y a les villes urbaines et dans les centres urbains aussi, on ne parle plus entre quartiers, on ne voit plus, parce que dans certains quartiers aujourd'hui, là aussi, la désertification existe, on la constate, fermeture du petit commerce qui... Et finalement, il y a un terme que j'aime beaucoup dans la société des liens, dans le rapport, c'est recréer ces accidents relationnels. Je trouve que c'est un vrai enjeu aujourd'hui, et on est tous responsables en fait, et c'est tellement plus humain que d'échanger et même de ne pas être d'accord.
Votre regard, Rebecca Champlain, je rappelle que vous êtes professeure et chercheuse en psychologie à l'Université Lumière Lyon 2.
Oui, alors en plus des points qui viennent d'être évoqués, il y a aussi la question qui concerne le temps, puisque créer des liens, ça nécessite aussi du temps et surtout la conscience que finalement, en créant des liens, si on souhaite les maintenir, ça va nécessiter encore plus de temps. Or, on manque de temps en permanence. On a l'impression déjà de courir après le temps toute la journée. Et lorsqu'on a un travail, lorsqu'on a une famille, eh bien, on a des personnes qui comptent sur nous, des personnes qui comptent pour nous aussi. Et donc, il y a des choix finalement qui sont faits en termes de priorité, qui sont aussi liés à des routines, à des habitudes, qui font que finalement, le temps est déjà tellement rempli par autre chose que créer des liens, ça nous semble à la fois impossible et superflu, et ça remet en cause finalement des priorités qu'on aurait par ailleurs. Donc c'est vraiment une question très complexe, avec à la fois, bon, quand on a des enfants, on peut être amené à rencontrer plus facilement d'autres parents, d'autres personnes nouvelles, mais finalement, très rapidement, on se dit en fait, ça va être impossible, donc on se contente de les saluer à la sortie de l'école, mais on peut pas vraiment rentrer dans la création de liens, parce qu'on se dit, comment on va caser ça dans une journée finalement.
Alors rassurez-vous, hein, le constat est un petit peu pessimiste et noir, mais tout à l'heure vous aurez des solutions, hein, pour créer de nouveaux liens. Le regard de Jean-Laurent Casselli, co-auteur de La France sous nos yeux.
Et pour rebondir sur ce que disait à l'instant Rebecca, les Américains avaient diagnostiqué il y a quelques années une épidémie de solitude. Mmh. Et on s'est rendu compte que c'est surtout les liens amicaux qui ont pâti de cette crise. Le lien social, ce n'est pas vraiment la famille, les parents, les proches. Ce sont plutôt ce que les sociologues appellent les liens faibles. Or, pour parler effectivement de solutions, parce que je pense qu'on est tous d'accord sur le diagnostic et le constat, il y a un autre paradoxe, c'est qu'on s'est rendu compte que les technologies du lien social, les applis de rencontre, les réseaux sociaux, les apps devaient nous permettre de trouver un conjoint, nous enfoncer dans la solitude, dans l'anxiété. Les réseaux sociaux ont créé du conflit, de la polarisation. On a cette tentation, vous en avez parlé, de recréer des lieux de rencontre, des bars, des cafés, des petits commerces. Moi qui m'intéresse beaucoup au monde du café, je pense que c'est une des solutions, mais faut pas être naïf non plus. Mmh. Les gens vont pas revenir dans les PMU comme dans les années 70, donc je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un mélange de techno et de présentiel, comme on dit maintenant. Et on voit d'ailleurs que la nouvelle mode, non pas dans la Silicon Valley, mais chez les développeurs français, c'est des applications qui mêlent la rencontre en physique avec d'autres, avec des inconnus, sans cet aspect un petit peu excessif, cette boulimie sociale qu'on a eue dans l'ère des apps de rencontre.
Jérémy Pelletier.
Oui, d'un mot pour rebondir sur ce que dit à l'instant Jean-Laurent, en effet, sur les amitiés qui sont beaucoup plus touchées en effet que les autres relations s'agissant de ce délitement du lien social, il y a un élément aussi qui me frappe justement sur l'amitié, et ça on s'en est rendu compte dans un certain nombre d'études sur est-ce que c'est plus difficile ou non qu'avant de se faire des amis dans l'époque dans laquelle on est. Mais en fait, beaucoup de Français sont devenus finalement plus exigeants quant à leur relation d'amitié. En gros, beaucoup nous disent j'ai souffert d'une relation d'amitié qui s'est terminée par une trahison, qui s'est terminée par un conflit, donc désormais je prends beaucoup plus de temps avant, entre guillemets, de qualifier un individu d'un ami. Pourquoi ? Parce qu'on en exige beaucoup plus qu'avant. On en exige en effet beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité. On en exige quasiment une pureté absolue. Il faut qu'il soit silencieux quand on aimerait qu'il soit silencieux. Il faut qu'il soit présent à chaque moment de coup de mou. Il faut qu'il soit absolument disponible en permanence.
Il y a des robots pour ça, la même chose. Comment ? Des robots humanoïdes.
Il y a peut-être des robots, absolument.
Alors, jouer ce rôle-là.
Beaucoup nous disent si mon chien savait parler, ce serait mon meilleur ami. Parce qu'il sait se taire, évidemment, lorsque j'arrive, il ne me regarde sans jugement. Mais parenthèse, vraiment, en effet, je pense qu'il y a aussi cet élément-là, qu'on est dans une époque où, en effet, sans doute que les gens sont devenus plus exigeants vis-à-vis de leurs amis, et donc c'est plus long aussi de se faire des amis dont on espérait qu'ils soient absolument purs et chimiquement purs.
Ça c'est très bien vu, hein, alors, Alexandre Jost.
Oui, et la bonne nouvelle, c'est qu'un robot qui aurait une main assez douce et qui, d'après la recherche, nous caresserait à une vitesse de 3 à 10 cm par seconde,
c'est vrai,
à une température de 37 degrés, générait la même production d'ocytocine qu'une main réelle d'être humain.
L'ocytocine, la fameuse hormone de l'attachement.
Exactement. Mais je pense qu'on peut dévier vers la question de l'amitié, mais l'enjeu, c'est liens faibles, hein, donc c'est liens occasionnels. Et là-dessus, peut-être le dernier facteur dont on n'a pas parlé, c'est une création d'une norme inversée. C'est David Le Breton qui parle de ça. Où aujourd'hui, eh bien, on s'excuse de s'adresser à l'autre. Il y a 30 ans ou 50 ans, vous disiez à votre voisin dans le train, excusez-moi, je vais sortir un livre. Aujourd'hui, vous tapotez sur l'épaule, non, vous pouvez pas toucher l'autre, vous vous adressez à l'autre, mais il a le regard baissé. Et donc, les bavardages sont devenus complexes, s'adresser à l'autre, on en a perdu l'habitude, c'est une norme différente.
Oui, tout à fait. Moi, je trouve que pour prendre le train régulièrement, le silence assourdissant du train et on en est à même aujourd'hui à ne plus regarder, à ne plus saluer son voisin quand c'est on vrai. S'assoit sur son siège. Et donc, c'est tout des solutions qui sont des accidents relationnels qu'il faut qu'on provoque. Il faut avoir le courage aussi de les provoquer, de les susciter. Nous, on essaye au sein du groupe EBRA, par exemple, de créer des rencontres avec des personnalités, mais on met des lecteurs, c'est ce qu'on appelle des falso lecteurs, on n'a rien inventé, hein, mais on le fait régulièrement parce que ça suscite et on a un temps d'échange avant et un temps d'échange après. Finalement, ça contribue aussi à ça. Il y en a pas mal d'autres solutions et on essaye de cette interactivité mixte dont vous parliez, Jean-Julien, tout à l'heure, qui est vraiment aujourd'hui une des clés, à mon sens, c'est-à-dire qu'il y a un aspect virtuel et un aspect aussi une prolongation physique nécessaire.
Rebecca Shankland, un lien social abîmé, un lien social qui se déchire, c'est dangereux à la fois pour le bien-être individuel et collectif. De nombreuses études ont montré que la chose qui nous rend durablement heureux, eh bien, c'est la qualité et la richesse de nos relations avec les autres. C'est le lien avec les autres qui contribue au bonheur. La grande étude sur ce sujet, c'est l'étude de l'université Harvard, menée depuis les années 1930 jusqu'à aujourd'hui, sur plusieurs générations. Cette étude le montre admirablement bien. Rebecca Shankland.
Oui, tout à fait. Et à l'inverse, le sentiment de solitude et l'isolement social ont des effets très néfastes à la fois sur la santé mentale, avec l'augmentation de symptômes de dépression, d'anxiété, sur la dimension physique, avec l'aggravation de maladies, l'accélération de décès précoces, et sur les capacités même d'autorégulation, c'est-à-dire par exemple, lorsqu'on a ce sentiment de solitude ou d'exclusion sociale, ce qui a été montré par Baum Meister dans des expérimentations, c'est que ça augmente la tendance à consommer des aliments compensateurs. Par exemple, on consomme deux fois plus de biscuits quand on se sent socialement exclu que lorsqu'on n'est pas dans cette situation. Donc ça va avoir un certain nombre d'effets aussi sur les consommations d'alcool, d'autres substances psychoactives qui affectent fortement à la fois le bien-être et la santé.
Alexandre Jost.
Peut-être, en préparant cette émission, je me disais, mais comment nous donner à comprendre ça sans pensée magique, les relations, créer la meilleure santé? Et finalement, moi, j'ai essayé de synthétiser l'idée en me disant que c'est le propos de Davidson, le neuroscientifique de la côte est américaine, je crois que c'est Princeton, qui dit que les relations sont consubstantielles aux émotions. Et vu ainsi, eh bien, les émotions positives sont ce qui, derrière, nous permet de fabriquer des compétences, nous protéger contre le stress, développer notre immunité, accroître notre empathie, diminuer l'usure du corps. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous permet de comprendre à quel point les relations sont importantes pour notre santé et pourquoi, dans les pires dystopies qu'on voit au cinéma, eh bien, « I will be a legend »,« Into the wild », de Rousseau, et ben c'est être seul au monde qui est la chose la plus difficile et l'enfer sur Terre envisageable.
La dystopie, c'est l'inverse de l'utopie. Jérémy Pelletier.
Je pense qu'en effet, cette question-là, elle est intéressante. Pourquoi les relations sont importantes? Je pense qu'il y a deux enjeux centraux dans l'époque. D'une part, la question de la reconnaissance. On se rend compte que dans la société aujourd'hui, et notamment dans le monde du travail, mais pas que, l'un des mots MAUX majeur, c'est le déficit de reconnaissance, le sentiment que les salariés ne sont pas suffisamment reconnus, et on voit aussi que c'est vrai dans la société française, donc vous ne pouvez pas vous sentir reconnu si vous n'avez pas de relation avec autrui, donc ça c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément, on parle souvent de la société dans 10, 20 ou 30 ans, beaucoup plus verte, beaucoup plus écologique, et donc beaucoup plus juste d'un point de vue environnemental, etc. etc. Pour que cette société soit capable de s'adapter justement à la transition écologique, à la transition environnementale, il faut ce qu'on appelle une société plus résiliente, c'est-à-dire capable d'être suffisamment forte pour accepter les changements, accepter les compromis, accepter l'actualisation du logiciel. En fait, vous faites une société résiliente si vous le faites de façon collective. Et en fait, on n'aura pas de société résiliente suffisamment solide, suffisamment forte pour encaisser en fait les chocs, parce qu'il y aura des chocs des sociétés à venir, si vous êtes dans des sociétés faites de solitude, faites d'isolement, faites d'éclatement, faites de déshumanisation. Donc il y a aussi un enjeu effectivement très pragmatique en matière de politique, en matière de société, c'est pour que la société soit résiliente, elle doit être plus collective qu'elle ne l'est aujourd'hui, donc de l'urgence en effet des liens et de la réhumanisation.
Sébastien Georges, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'Est républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin.
Oui, je partage ça, je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi et qu'on réapprenne, il y a une question d'éducation, peut-être que ça commence dès le plus jeune âge, et à se reparler, à rééchanger, à se confronter ses idées, et ça c'est, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans la fracturation, y compris politique, y compris de la société, c'est qu'on a aussi du mal à se parler. Et pour se parler, il faut qu'on ait des exemples. Et je pense que ça commence aussi à l'école, où les parents parfois arrivent en furie, ne respectent plus l'autorité incarnée historiquement par l'enseignant, mais aussi dans le partage de discussions. On parlait des cafés, mais dans les cafés aujourd'hui, y compris, on est juste dans un échange, on vient boire un café avec celui avec qui on est, Mais on vient plus se mettre au comptoir et se dire, tiens, je suis tout seul, mais je parle aux voisins. Alors que les Anglais ont encore ça, avec le pub, le soir, les rendez-vous, où ça dure, où il y a un peu de temps, des voix qui sortent, des choses comme ça. Bah, bon, les matchs de foot, on regarde.
Vous avez bien fréquenté les pubs, hein, Sébastien
Georges. Non, pas trop, mais un peu. Mais voilà.
Alors j'aimerais qu'on s'attarde, Alexandre Jost, sur une source de bien-être et de santé souvent sous-estimée, ce sont les relations de voisinage, trop souvent envisagée dans certains reportages sous l'angle de la guerre des voisins. De plus en plus de Français considèrent hélas que ces liens entre voisins se sont affaiblis, alors que on le sait très bien, le bavardage avec ses voisins, l'entraide entre voisins sont une indéniable source de petits bonheurs quotidiens. Il faut, Alexandre Jost, réhabiliter ces petites conversation qui semble sans importance. C'est l'un des points de votre étude passionnante, La société des liens.
Je pense que c'est à la fois bon pour la société, bon pour nous, bon pour la société, parce que effectivement, il faut, pour être ensemble, eh bien, il faut reconstruire un sens commun. Et j'aime bien l'idée que finalement, en interagissant avec ses connus, avec ses inconnus, on finit par recréer un intérêt partagé. Qui a une figure, celle de l'autre. Et puis pour soi, eh bien, je pense que c'est déjà dire que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que dire bonjour à l'autre ou se faire dire bonjour par un voisin, c'est bénéfique. Et alors là, moi, je suis toujours étonné par les Américains qui font des études là-dessus. Mais alors, dans le Genwell Project, eux, ils nous rappellent que si je dis bonjour à un inconnu une fois dans la semaine, alors, à la fin de la semaine, j'ai 75% de chances de plus de vouloir parler pendant une heure à un voisin. Et là, on observe donc qu'il y a un cercle vertueux qui est que interagir avec quelqu'un qu'on connaît peu, un voisin, donne envie de parler à l'inconnu. Et inversement, si on dit bonjour 6 fois par semaine au voisin, eh bien, autour de soi, eh bien, on construit un bonheur plus grand et même une plus grande prospérité financière. Et on retrouve l'envie de parler à l'inconnu. Ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, pour être un petit peu optimiste, il y a possibilité de retisser une humanité où on a le sentiment de faire partie du vivant et que ce vivant, il s'incarne via le voisin ou l'inconnu dans la rue. Et c'est ça, ce sentiment d'inclusion qui nous fait autant de bien. Par opposition à, et je cite cette étude étonnante, si je me fais exclure d'un jeu de balles, eh bien j'active dans mon cerveau les zones qui sont relatives à la douleur. Donc inclusion, faire partie d'eux, mais quel bonheur.
J'en profite pour saluer mes excellents voisins, monsieur et madame Champeau et Coco. Mais vraiment, ce sont des voisins absolument formidables, où il y a de l'entraide et c'est toujours un plaisir de faire la conversation avec eux. Rebecca Shankland, parler avec des inconnus, on le voit, peut se révéler bénéfique. Comment surmonter sa timidité ou sa peur des autres, Rebecca Shankland? Donnez-nous peut-être quelques conseils pour surmonter cette peur.
Alors, très bonne question. Alors, ce que montrent les recherches autour de cette question des voisins, et notamment les recherches par Fowler et Christakis, montrent que le bonheur des voisins a une influence forte sur notre propre bonheur. Donc, on peut aussi se dire de manière très égoïste que c'est cultiver les relations avec des inconnus, c'est aussi bénéfique pour nous. Mais d'une manière plus générale, hein, quand on comprend l'importance des liens, qu'on a envie d'aller vers les autres, c'est pas toujours facile. Il y a effectivement cette forme de timidité ou pour certains une forme d'anxiété sociale, la peur du jugement qui arrive. Alors il y a différentes méthodes, hein, bien sûr, qui permettent de travailler là-dessus, hein, et notamment les thérapies cognitives et comportementales ont beaucoup travaillé sur ces dimensions, comment pouvoir rentrer dans la communication, se sentir plus à l'aise, et notamment lorsqu'on s'entraîne avec des jeux de rôle, etc., ça facilite ensuite l'entrée en relation avec aussi certaines initiatives qui ont proposé des outils très simples en quelques étapes pour pouvoir savoir de quoi parler, par quoi commencer.
Donc, on peut commencer par exemple avec l'actualité locale dans la presse quotidienne régionale.
Oui, et contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas que des informations négatives et pas que des faits divers, parce que c'est des fois un peu le prisme et le travers qu'on a. On raconte beaucoup de choses positives positive, on raconte des histoires de liens sociaux régulièrement. Je pense aussi du lien intergénérationnel dont on n'a pas encore évoqué, mais des crèches dans des EHPAD, des rencontres avec différentes générations, des rencontres de différents quartiers, etc. Et ça, ça correspond aussi à nourrir, et c'est l'acceptation. Je pense que parfois, il faut accepter d'être un peu provoqué. Et je pense à des jardiniers pirates à Nancy, qui sont mis en avant d'ailleurs dans le rapport, qui créent ponctuellement sur des endroits un peu nulle part, des jardins qui plantent des trucs. Alors fortement, on est un peu choqués, et puis finalement ça nous tire un sourire. Et ce sourire, ça nous fait rire, et c'est important d'être dans cette démarche et de l'accepter. Et donc nous, on raconte aussi toutes ces histoires dans nos différents titres et par nos rédactions.
Allez, il est 10h44, l'heure de retrouver la chronique Les Français mode d'emploi de Jean-Laurent Casséville.
Regardez Salomon, regarde.
Grand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée. C'est un Français.
Ali Rébéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde. Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Bon français, Jean-Laurent Casselli, vous nous parlez de ces films qui racontent nos territoires.
Ali, est-ce que vous aimez le comté ?
Ah bah, beaucoup.
Eh bien, alors il faut aller voir le film Vindieu. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans le Jura, qui passe son temps à boire des bières, à se bagarrer dans des fêtes de village et qui, pour des raisons que je ne révèle pas ici, décide de se lancer dans la confection d'un comté pour emporter la médaille d'or du concours agricole. Alors vous avez capté, on est loin du film Télérama sur un triangle amoureux dans un trois pièces parisien.
Je vais vous faire des amis, là.
Ah, c'est dit. La réalisatrice Louise Courvoisier est âgée de 30 ans. Elle est elle-même originaire du Jura et du milieu agricole. Elle raconte qu'elle a tourné son film dans un rayon de 20 km autour de chez elle. Et je me suis demandé si elle n'avait pas inventé avec d'autres un genre de cinéma dont je viens d'inventer le nom hier, le film de territoire. Mm-hmm. Un peu comme il y a des marques de terroir ou des appellations d'origine protégée, des AOP comme le comté, justement. Eh bien, il y a désormais des films d'origine protégée. En ce moment, il y en a beaucoup, hein, puisque des jeunes qui s'ennuient, qui tombent amoureux, des balles pop, des petites motos, ce sont des éléments qu'on retrouve dans un autre film à l'affiche, Leurs enfants après eux, adaptation du roman culte désormais de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018. On est cette fois en Lorraine, hein, c'est une spéciale les bras ce matin, dans une vallée sinistrée après la fermeture de ses usines. Encore un film dans lequel le paysage est lui-même un personnage, comme on dit, dans le monde du cinéma.
Alors, pour quelle raison, Jean-Laurent, a-t-on l'impression que les films de territoire ont la cote ?
Bien parce que depuis quelques années, Ali, crise sociale et politique, vous l'avez rappelé, s'accumule dans les fameux territoires. Révolte des Gilets jaunes de 2018, plus récemment crise agricole, et puis vote RN, j'ai envie de dire, à chaque élection. Tous ces épisodes ont rendu visible ce que le géographe Christophe Guilluy avait baptisé la France périphérique, pour le dire simplement, la France éloignée des grandes agglomérations, celle des petites villes, des campagnes, des zones de montagne. Ensuite, en 2020, il y a eu ce qu'on a parfois appelé l'exode urbain. Vous savez, quand tous les Parisiens, les Lyonnais et les Marseillais se sont réfugiés à la campagne pendant le confinement et ont redécouvert pour certains leur pays. Certes, beaucoup sont repartis en ville depuis, mais cet exode a laissé des traces et les territoires sont désormais dans les radars des intellos, des artistes, des photographes. Au passage, vous l'avez compris, les territoires, c'est le nouveau terme un peu techno et vague pour désigner ce qu'on n'ose plus appeler la province ou les régions, enfin bref, la France, excepté Paris, quoi. Alors, être d'ici, c'est un peu le nouveau cool. Ici, c'est d'ailleurs depuis le 6 janvier, vous le savez, le nouveau nom du réseau France Bleu, oui. La station de Radio France consacrée à la proximité. Et ce qui est amusant, en fait, dans ce renversement d'hierarchie entre les territoires, c'est que désormais, ce sont nous, les Parisiens, qui ont un peu honte de dire où ils viennent. Anecdote que j'entends de plus en plus souvent en ce moment, cette mise en garde, attention à ne pas faire trop parisien, hein. Phrase qui est systématiquement prononcée par un Parisien à l'adresse d'un autre Parisien.
Et voilà. J'apprends à la France entière que vous êtes Marseillais, vous, Jean-Laurent Casselli. Hein,
tout à fait, tout à fait.
Alors, on termine avec deux conseils de lecture.
Alors, le premier, Loin de Paris, justement, un livre collectif dirigé par Salomé Berliou et Félix Assouli. Il s'agit d'un ensemble d'analyses, mais aussi de témoignages sur la vie quotidienne dans les petites villes et les territoires ruraux, avec de nombreux co-auteurs brillants, dont celui qui est juste à ma droite, Jérémy Pelletier. Et puis, encore un ouvrage de territoire. Certains montent à Paris, comme moi, vous l'avez dit, Ali, de Marseille. Et Pauline Rochard, elle y est descendue, logique, puisqu'elle vient du nord de Dunkerque, précisément. Elle est depuis revenue habiter près de l'endroit où elle a grandi. Elle raconte cette expérience de réancrage dans son ouvrage « Ceux qui reviennent » aux éditions Payot. Et elle incarne une catégorie de Français hybrides capable de tisser des liens entre les modes de vie des grandes villes et ceux de nos chers territoires.
Lisez donc « Loin de Paris », dirigé par Salomé Berliou et Félix Assouli, et « Ceux qui reviennent » de Pauline Rochard. Ça a l'air absolument passionnant. Votre regard, Sébastien Georges ?
Écoutez, la richesse des territoires n'est pas à démontrer. Les belles histoires que vous racontez, que les médias, dont les médias s'emparent, dont les les historiens s'emparent, dont les créateurs de culture s'emparent et viennent des territoires et sont nourris par ça. Parce que finalement, la France, elle est multiple. Elle est riche de sa capitale, mais elle est aussi riche de ce qui se passe dans les territoires, où qu'ils soient. Nous, on a 23 départements sur Ebra. Les 23 départements ont leur identité. Mais néanmoins, tout ça, ça fait la France et ça n'empêche pas de se rencontrer et d'avancer et de créer du lien, puisque c'est le sujet.
Les Français mode d'emploi de Jean-Laurent Casselli. Je rappelle Maison Casselli, cabinet qui décrypte les tendances de notre société.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Pourquoi est-il devenu difficile de créer des liens et comment en créer de nouveaux ? C'est notre thème ce matin avec la Fabrique Spinoza, avec le groupe de presse Ebra. Violaine qui nous dit « Pour créer du lien, je crée des occasions avec mes voisins. Par exemple, tous les ans, on fait la galette des rois. Hein, très très bonne idée. J'essaye d'organiser des événements tous les deux mois. Nous avons un compte WhatsApp ouvert. Béatrice qui nous dit « Je voudrais dire que je suis retraitée. J'ai quitté Lyon pour venir à la campagne. J'ai eu peur d'être seule. Mais finalement, c'est le contraire. Plus le territoire est éloigné, plus il y a de solidarité, de relations humaines. » Et Laurette qui nous écrit « J'ai un peu de mal à m'accorder avec vos propos, peut-être parce qu'ils sont centrés sur le quotidien des habitants des grandes métropoles. J'habite à la campagne et le lien social ne cesse de se conserver et d'évoluer. Les bénévoles affluent dans les associations et les bistrots ne manquent pas de clients. » Sébastien Georges du groupe Ebra, qu'est-ce qu'on peut répondre à Laurette ?
Non, mais en fait, le problème n'est pas de dire qu'il n'y a plus de liens, parce que ce n'est pas vrai. Mais en revanche, on sait que les lieux se raréfient. Mais en revanche, les lieux qui existent et qui perdurent vivent. Maintenant, il y a tout à trouver le modèle économique, il y a des accompagnements souvent des collectivités, il y a aussi des temps où ça fonctionne, et puis on voit aussi que selon le goût de la consommation, parce que les problèmes des associations, c'est qu'elles ont besoin de bénévoles, mais elles ont du mal à les garder. En fait, c'est pas tant. Donc ça existe, mais je crois que, en plus, ça dépend, peut-être que la zone où madame est forcément un peu plus, peut-être un peu plus dynamique. On sait que selon les endroits, selon la distance, etc., c'est plus compliqué.
Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès.
Alors, évidemment et heureusement qu'il y a des contre-exemples à l'analyse un peu effectivement globale et de tendance en effet qu'on a fait durant toutes ces émissions. Mais d'ailleurs, ce sont ces contre-exemples qui sont rassurants et qui nous font dire qu'il y a des leviers et des ressorts justement pour recréer des liens sociaux. Il y a une de vos auditrices qui a parlé du fait d'organiser des occasions, régulièrement des occasions, la galette des rois, etc. Je pense qu'un des éléments, un des ressorts très importants aujourd'hui si on réfléchit à des solutions, c'est la capacité notamment des élus locaux à organiser de nouveau des événements gratuits à dimension un peu populaire. Beaucoup d'élus locaux nous disent, pendant des années, on avait arrêté la grande fête du 14 juillet, les grands bals un peu populaires et un peu gratuits du 14 juillet. Au moment où on s'est remis à les faire, au moment où on s'est remis à les organiser, ça suppose des contraintes, hein, parce qu'il y avait des contraintes sécuritaires, il y a des contraintes organisationnelles, des contraintes économiques, mais beaucoup nous disent, en ritualisant de nouveau ce moment-là, gratuit, et j'insiste sur gratuit, parce que l'important, justement, pour recréer des liens sociaux avec des gens que vous ne connaissez pas, c'est d'avoir des moments gratuits et non payants. Et beaucoup disent, depuis, je sens une cohésion plus importante dans ma collectivité, plus importante dans mon territoire, et donc oui, de l'importance d'organiser des événements à échelle humaine et à échelle populaire gratuit.
Des fêtes qui vous sont chères, vous avez écrit un livre sur le sujet.
Absolument, mais je crois assez dans la puissance de la fête pour recréer de la cohésion sociale et nationale.
Rebecca Shankland, je rappelle que vous êtes chercheuse et professeure en psychologie.
Oui, et aussi, quel que soit le territoire, créer des liens, c'est aussi recréer des liens avec des personnes pour qui ça a été compliqué. Ça peut être, par exemple, les enfants qui ont traversé l'adolescence. Quand ils deviennent adultes, ils vont faire beaucoup de reproches à leurs parents, etc. Les ponts peuvent être coupés. Et donc, quand on pense à créer des liens, on pense à des nouvelles personnes, mais ça peut aussi être recréer ces liens qui ont été malmenés par la vie et qui peuvent contribuer très, très fortement aussi à cette question du sentiment de lien social et de bien-être.
Et nous accueillons Joël. Bienvenue, Joël.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Vous habitez dans un petit village en Dordogne, à Trémola, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Alors, vous avez créé un café associatif.
Voilà. Alors, moi, je voulais dire qu'on n'a pas trouvé ça tellement difficile. Mmh. ça demande de l'énergie, de l'inventivité et puis de la ténacité aussi. Mmh. Alors on a créé une association et on a déposé dans un... C'était une boutique qui n'était plus en activité. Et on a créé ce qu'on appelle un café village qui tourne surtout autour d'ateliers. En fait, on a repéré les compétences. Tout le monde a des compétences. Hein. Et dans un village de 600 habitants, il y a forcément plein de gens qui ne demandent que ça. Et donc, ce café tourne surtout autour d'ateliers. On a une chorale, on a du yoga, du tricot, de la musique tous les mercredis soirs, des départs de randonnée. Et en fait, ça crée un lieu de vie, d'entraide et de joie incroyable. Alors, on n'avait pas de moyens pour faire de la publicité. C'est le bouche à oreille qui a marché. Et on se félicite tous de cette réussite. Parce que vraiment, les gens, ils viennent, ils sont fidèles depuis 3 ans.
C'est à Trémola, c'est ça ?
Trémola. Et c'est en perpétuel devenir. Dès que quelqu'un a une idée, il la met en action et c'est parti.
Comment s'appelle le café ? On va tous y aller, là, bon. Joël.
Ah, venez, venez. ça s'appelle le Café Village.
Le Café Village à Trémola, en Dordogne. Eh bien, si vous passez par ce village, n'hésitez pas à pousser la porte. Merci beaucoup, Joël, allez-y.
Je voulais simplement ajouter qu'effectivement, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour tous ceux qui s'investissent, mais le bienfait est énorme de rencontres, de chaleur humaine, de partage, de rire.
En tout cas, voilà. Votre enthousiasme est très communicatif, Joël. Corinne, qui nous écrit, pour créer du lien dans ma petite ville de moins de 5000 habitants, nous avons monté une association d'une vingtaine de bénévoles de tous âges et tout milieu pour faire revivre notre cinéma. Stéphanie, des endroits pour se croiser, les salles de jeux de société qui se multiplient ces dernières années partout en ville et dans certains villages. Et puis Christiane, jeune retraitée, je me suis investie dans différentes associations dont les objectifs me tenaient à cœur, c'est-à-dire nettoyer la nature. Ce n'était pas l'objectif, mais de nouveaux liens se créent à travers tous ces engagements. Vous avez le mot de conclusion, Alexandre Jost de la Fondation Jean Jaurès.
De la Fabrique Spinoza.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Fondation Jean-Jaurès.
Oui,
je vois bien que vous voulez me remplacer, cher Ali. C'est
de la
pas
Fabrique
très
Spinoza.
Gentil.
Deux messages forts. Le premier, c'est ayons espoir. On parle aujourd'hui d'ingénierie du lien social. On comprend les tenants et les aboutissants pour recréer du lien. 40 principes, on peut s'en saisir. Et puis encore plus enthousiasmant, et si c'était une stratégie politique ? Et si on mettait le lien au cœur de notre société comme un moyen, comme le disait Jérémy, de favoriser la transition écologique, comme un moyen de favoriser la santé de manière plus efficace, comme une manière de redynamiser l'entreprise et lui donner de l'énergie, comme un moyen de refaire un monde commun dans notre pays. Et je pense que c'est possible à l'image des travailleurs du lien qui sont financés par le gouvernement anglais.
Merci beaucoup Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès. Merci Jean-Laurent Casselli. Merci Sébastien Georges, rédacteur en chef du Républicain Lorrain, de Vosges Matin et de l'Est Républicain, et plus largement coordinateur du groupe de presse EBRA. Merci Rebecca Chancland de ces liens qui nous font vivre. C'est publié en poche chez Odile Jacob. Et merci Alexandre Jost. On peut se précipiter sur le site de la Fabrique Spinoza où on va pouvoir lire ce très beau rapport, La Société des Liens.
Grand Bien Vous Fasse, un podcast France Inter.